Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, il est 17h passé de 27 minutes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. À la technique Nohum Diré, au micro Mariam Maïga, voici les principaux titres de l'actualité. Immatriculation des motos à gros cylindres, le parcours s'annonce difficile pour les usagers des zones reculées. L'interdiction de circuler hors agglomération complique l'enregistrement des engins. Pendant ce temps, le trafic reprend timidement à Nara et à Nioro du Sahel, tandis que la ville de Léré retrouve progressivement son souffle. Le blocus imposé à cette localité a été levé il y a quelques jours. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'opération d'immatriculation des agents à deux roues se poursuit dans plusieurs localités du pays. Mais pour des propriétaires de motos à gros cylindres vivant dans les zones reculées, l'équation s'annonce particulièrement difficile. Comment faire immatriculer son engin lorsqu'il est interdit de circuler avec en dehors des agglomérations? Élément de réponse avec Fatih Yattara.
À Nsongo, l'interdiction de circuler avec les motos complique l'opération d'immatriculation pour certains propriétaires. Beaucoup disent ne pas savoir comment rejoindre les centres d'enregistrement. Ces conducteurs de tricycles qui préfèrent garder l'anonymat témoignent.
On a beaucoup de difficultés sur ça. Et on nous a demandé de ne même pas toucher au tricycle parce que si on le touche, il y a les drones qui sont en haut et donc les drones visent directement le tricycle. Et voilà, avec ça, on ne croit pas comment amener le tricycle pour l'immatriculation.
Pour des spécialistes, l'objectif de l'immatriculation est nécessaire, mais des solutions doivent aussi être trouvées pour les populations éloignées des centres. Docteur Jean-François-Marie Camara, enseignant-chercheur en sciences politiques, propose des pistes.
Dans les régions, le gouvernement est déjà présenté à travers les autorités déconcentrées. On parle d'abord du gouverneur, le préfet, le sous-préfet, n'est-ce pas? Ces représentants du gouvernement doivent instaurer un dialogue avec la population. S'ils ont peur d'aller dans les grandes villes, qu'est-ce qu'eux-mêmes, en tant que les usagers, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils peuvent dire, par exemple, de multiplier les sites. Ils peuvent aller s'enregistrer, n'est-ce pas, chez le chef du quartier ou multiplier d'autres sites permettant aux gens de se déplacer pour aller dans les grandes villes.
Pour les autorités, cette mesure doit aider à mieux tracer les engins, perturber les circuits d'approvisionnement des groupes armés et faciliter le travail des forces de défense et de sécurité.
L'étau se desserre autour de Nara, Nioro du Sahel et Léré. Ces trois villes étaient sous blocus de groupes armés depuis plusieurs mois. À Léré, le blocus est désormais complètement levé et la circulation reprend. À Nara et Nioro du Sahel, en revanche, le trafic reste encore timide. Intal Akbilal nous en dit plus.
À Nioro du Sahel, la circulation des véhicules de transport en commun et des gros porteurs a timidement repris sur les principaux axes routiers menant à la ville. Selon plusieurs témoignages, il reste toutefois difficile de quitter la ville pour rejoindre Bamako. Le blocus affecte particulièrement les transports en commun ainsi que l'acheminement des vivres et des marchandises. Pour le transport des personnes, ce sont principalement les véhicules légers communément appelés Djema Djema qui assurent les déplacements. À Nara, le transport entre Bamako et la ville est actuellement assuré par des véhicules particuliers. Le prix du trajet varie entre 18 000 et 25 000 francs CFA. Quelques véhicules de marchandises continuent également d'approvisionner Nara en passant par l'axe Nono-Nara. À Léré, en revanche, la levée du blocus intervenue il y a quelques semaines a été accueillie avec soulagement par les populations. La circulation des personnes et des biens y a fortement repris au grand bonheur des habitants.
Parlons justice. Le journaliste Abdramane Keïta a comparu ce lundi devant le pôle de lutte contre la cybercriminalité. Le parquet requiert 3 ans de prison, dont 2 fermés, 1 an avec sursis, ainsi que 1,5 million de nos francs de dommages et intérêts. Poursuivi pour notamment diffusion de fausses informations, le journaliste rejette les accusations. Le verdict est attendu le 14 septembre prochain. Ce 14 septembre plus tôt. Sur un tout autre sujet, le réseau de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière demande un audit de certains marchés publics. Sont notamment concernés des marchés portant l'acquisition de matériel de guerre ainsi que de l'achat de l'avion présidentiel. Les responsables du réseau ont saisi le bureau du vérificateur général. Ils estiment que plusieurs aspects de ces marchés doivent être éclairci. Moussa Ousmane Touré, président du réseau, répond aux questions de Sita Sidibé.
Effectivement, nous avons quelques soupçons au sujet de bien des marchés et dans bien des domaines. Et nous avons même eu à mettre les vérificateurs sur un certain nombre de pistes qu'il pourra exploiter. Et c'est ce qui nous a vraiment poussé à les saisir au fin de mener un audit sur tous les marchés passés sous la transition, et à savoir les marchés d'acquisition de matériel et équipements militaires, l'avion présidentiel, tout, bref.
Et on poursuit avec une brève dans l'actualité du basketball. Le Mali joue actuellement la Coupe du monde de basketball dames. Il ne reste plus qu'une minute, une vingtaine de secondes, et les Aigles dames sont en train d'essuyer une défaite face au pays hôte dans cette sortie qui est d'ailleurs leur dernier match de poule face à l'Allemagne. Une défaite qui met donc fin à l'ambition du Mali pour une place historique en quart de finale pour la Coupe du monde de basketball. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Studio Tamani est un projet de la Fondation Hirondelle au Mali en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par la coopération suisse, la coopération espagnole, l'Union européenne et le gouvernement norvégien.
À présent, retour sur les principaux faits de l'actualité qui ont marqué la semaine dernière. Une rétrospective proposée par Moussa Malé Sissoko.
Trois faits majeurs ont marqué l'actualité de la semaine. Dans le secteur des médias, la Maison de la presse annonce la création d'une commission pour relire la convention collective des journalistes et d'une cellule chargée de préparer le futur organe d'autorégulation des médias. Autre fait marquant de l'actualité, l'État malien détient désormais 35% du capital de la société minière de Kobada, conformément au nouveau code minier de 2023. Enfin, le bilan des intempéries s'alourdit durant cet hivernage. Au 2 septembre, 6 cas d'inondation, 10 cas de foudre et 4 cas de vent violent ont fait 13 morts et touché près de 2800 personnes. Des mesures sont en cours pour limiter les dégâts.
Mali-Allemagne, le score est actuellement de 81-58 en faveur pour l'Allemagne. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Meiga. Ne décrochez pas car tout à l'heure, vous retrouverez Écho des régions juste après le magazine. Au Mali, la médecine traditionnelle occupe toujours une place importante dans les habitudes de soins. Selon l'Institut national de recherche en santé publique, près de 80% de la population y aurait recours. Mais comment cette médecine s'articule-t-elle avec la médecine conventionnelle? Quels sont ses atouts et surtout, quelles en sont les limites? Élément de réponse dans ce magazine Santé réalisé par Moussa Malé Sissoko avec le concours de nos correspondants.
La médecine traditionnelle est composée de traduits praticiens, des produits utilisés et des connaissances transmises de génération en génération. À Bankas comme à Yoroso, des habitants disent faire confiance à ces pratiques pour traiter certaines maladies.
Ici à Yoroso, j'ai choisi les plantes pour me soigner contre le palud. Cette méthode me paraît efficace. L'an dernier, j'ai fait un traitement au centre de santé en vain. Mais lorsque je me suis tourné vers les plantes, j'ai eu un résultat positif.
Derrière cette médecine traditionnelle, il y a aussi la recherche. L'Institut national de recherche en médecine et pharmacopée traditionnelle œuvre pour la conduite des activités de recherche, de formation et de promotion en médecine et pharmacopée traditionnelle. Selon sa directrice, professeur Wurkia Sanogo, ses recherches ont abouti à des médicaments améliorés et homologués par des structures compétentes.
Il y a beaucoup de recherches qui ont abouti à des médicaments contre le palud. On a le malarial 5, le sirobalembo, qui est un antitussif, dysentérial, qui est contre la dysenterie amibienne, le gastrocédal contre l'ulcère gastrique, l'hépatisane pour les affections hépatiques, sacacea, qui est un laxatif, et on a la psoroxylamine pommade contre les eczémas. Et en plus de ça, on a les résultats d'autres bons médicaments contre les hépatites, de la prostate, du diabète, l'hypertension, qui qui ne sont pas encore sur le marché.
Mais tout n'est pas gagné. La FEMAT, Fédération malienne des associations des thérapeutes traditionnels et herboristes, s'est dit confrontée à des défis, notamment la publicité des médicaments par certains herboristes et tradithérapeutes. Toumani Diakité, secrétaire général de la FEMAT.
La réglementation du secteur, les textes qui régissent la médecine traditionnelle datent de 1994 parce qu'il y a eu assez de mobilisation des thérapeutes et la communication et la publicité auxquelles les gens ne font pas la différence. Là, c'est un défi également. Depuis 2023, aucun thérapeute n'a eu un agrément. Donc c'est là, il faut la relecture des textes d'abord.
Alors, médecine traditionnelle ou médecine moderne, pour les acteurs du secteur, il ne s'agit pas forcément de choisir l'un au détriment de l'autre. Ils plaident plutôt pour une collaboration entre les deux afin de mettre les savoirs traditionnels et la recherche scientifique au service d'une meilleure prise en charge des patients.